MM Radio. MM Radio.
Bonjour à tous, je suis Angela Pucci, merci de nous écouter sur MM Radio. Notre book club audio continue avec bout de lecture et c'est Lionel Flaugère qui a un métier très intéressant pour tout amoureux de science. Tu es technicien méthode chez Novae Aerospace. Alors en quoi consiste ton métier exactement?
Mon métier consiste à traiter tout ce qui est gamme de fabrication, en fait amélioration. Dans le sens où des opérateurs par exemple ont des fiches d'amélioration qui rédigent, ils ont besoin quelconque, que ce soit d'outillage, d'amélioration de documents, je mets à jour des documents et je consulte des fournisseurs pour la fabrication de leur outillage. Ensuite je leur apporte pour dire que est-ce que ça correspond ou pas, et ils me disent c'est bon, ils gardent, c'est pas bon, on modifie.
Ah, génial.
Donc aussi sur le produit sur lequel on travaille, donc je mets à jour les documents techniques.
D'accord, ok. Comment tu t'es décidé à travailler dans cette industrie?
Mon profil est plutôt technique parce qu'avant j'ai travaillé dans la chaudronnerie.
D'accord.
Et du BEP jusqu'en BTS, c'était de la chaudronnerie. Puis j'ai décidé de faire une licence pro en gestion de la production industrielle.
D'accord.
Et en venant sur la région parisienne, comme je voulais poursuivre mes études que j'avais pas trouvé dans d'entreprise pour l'alternance, j'ai décidé de travailler, c'est lui qui m'a appelé.
D'accord.
Bon, quoi qu'avant j'avais travaillé aussi dans l'aéronautique, j'avais fait ma licence pro dans l'aéronautique.
Ok, ça te plaît toujours autant?
Ouais. Bon, oui.
On te verra dans un... comment on appelle ça? Un site spatial?
Non.
Comment ça porte ton été?
Mon été?
Ouais, 2017.
Chaud, hein.
Ouais.
Il a l'air chaud.
Bon. C'est que... ça a bien la semaine.
Ouais. Pour l'instant, j'espère. Déjà là, il y a eu de la pluie, donc ça calme.
Ça calme un peu, ouais.
Ouais, bon.
Ça va,
voilà,
donc,
ça va le faire.
Plutôt
ça.
Calme, tous les Parisiens sont partis là. Pas tous. Pas au boulot non plus.
Non, pas au
boulot. Des vacances prévues prochainement?
Retour dans le sud, la plage, Aix-en-Provence, Marseille.
Ah, nice, combien de temps?
Une ou deux semaines à peu près.
Ça va, ouais. Le temps de.
C'est ça.
Reposer l'esprit. Alors tu es en train de lire, Lionel, un livre très intéressant que certains appelleront Self-Help. Raconte-nous cet ouvrage que tu as là.
L'ouvrage s'intitule Le Libérateur.
Mm-hmm.
Et c'est une réédition, en fait, il a été rédigé par Neil Anderson.
D'accord.
Et c'est un ancien pasteur qui, au bout d'un certain temps, en fait, s'est rendu compte que les chrétiens avaient certains problèmes, mais que peu le réalisaient en fait. Il a commencé en fait, il était attiré vers le ministère, un ministère un peu spécial.
D'accord.
Celui d'aide, en relation d'aide. Et au départ il explique ses raisons, qu'il n'était pas du tout intéressé par le domaine spirituel bien avant d'être converti, parce qu'apparemment il travaillait...
Il était ingénieur.
C'est ça.
Ouais.
Donc le Seigneur l'a appelé justement dans ce domaine. Et dans son ouvrage, il apporte des témoignages, des personnes, des chrétiens qu'il a rencontrés, qui justement étaient dans des situations très compliquées.
Ouais.
Et au travers de son ouvrage, en fait, on se rend compte que on croit qu'il n'y a que des non-chrétiens qui traversent certaines choses, mais en fait, ça concerne tout le monde, même des chrétiens. Apparemment, il y a eu aussi des personnes, des pasteurs à qui il s'est adressé, qui étaient dans des situations un peu particulières.
Et tu dis justement cette situation, ces problèmes dans lesquels les chrétiens étaient, quelles sont ces situations? Par exemple, tu as des exemples, deux, trois?
Des exemples, certains entendent des voix.
D'accord.
Certains, en fait, ont du mal à se concentrer. Rien que ça, ça paraît anodin, mais en fait...
C'est compliqué.
C'est autre chose. Certains, dans son ouvrage, il raconte le témoignage d'une femme, en fait, qu'on avait déclarée schizophrène.
Ok.
Et que c'était apparemment un stade critique, limite et interné.
Ouais.
Et pourtant, c'était pas en fait du domaine chimique, mais c'était plutôt spirituel.
Wow.
Donc, dans cet ouvrage, en fait, il y a pas mal de cas qu'il explique, qu'il développe.
Mm-hmm.
Et on se rend compte que il y a certaines choses, on croit que certaines maladies mentales, c'est juste parce que la personne elle a craqué,
c'est
dans
ça.
Sa tête ça va.
Exactement,
pas. Mais en réalité, ça peut aussi être d'ordre spirituel.
Donc, est-ce que c'est un guide ou c'est un petit peu un manuel pour guérir ce genre de choses, ou c'est un état des faits?
Je pense que c'est à la fois un guide parce qu'il donne des conseils.
D'accord.
Sur ce qu'il faut faire attention. Il rappelle bien sûr, vu que c'est un ancien pasteur, donc il parle également de certains versets de la Bible.
D'accord.
La parole de Dieu. Et aussi au fur et à mesure qu'on avance, il donne aussi des clés, puisque le but de l'ouvrage, c'est justement destiné aux chrétiens pour qu'ils puissent se libérer de l'emprise de l'ennemi, de Satan. Parce qu'on a beau le dire, certains pensent que bon, Satan, Satan n'existe pas, voilà, c'est juste, voilà. Mais en réalité, il existe, parce que on peut voir certains cas, il y a des gens qui ont été possédés, on voit bien des films d'horreur en fait qui racontent de faits réels, et que ça existe, les possessions, ça existe. Mais après, on voit souvent des cas extrêmes, mais Satan est plus rusé que ça. Des fois, il utilise juste le mensonge, la tromperie. Il glisse certaines pensées dans l'esprit des chrétiens ou même des personnes non chrétiennes. Et ça fait que la personne nourrit certaines choses, comme le fait de penser que je suis nul. Quelqu'un qui dit tout le temps, qui se dit intérieurement, en fait, il a la pensée je suis nul. Mais en réalité, c'est un mauvais esprit qui lui parle. Et au fur et à mesure qu'on acquiert ce genre de pensée, on laisse l'opportunité à Satan et ses anges de nous écraser, on devient esclave de ce genre de choses. Comme les addictions, des fois, c'est d'ordre spirituel.
C'est vrai.
C'est d'ordre spirituel, on ne réalise pas.
C'est clair. Et même pourtant, simplement, même aussi la gourmandise, l'avidité, c'est ça ?
L'avidité, l'avarice, toutes ces choses. D'ailleurs, même l'auteur, à un moment donné, parle de certaines choses que Dieu a faites qui sont bonnes, que l'homme a perverti en fait, au final a tiré dans l'excès. Par exemple, le sommeil, tiré dans l'excès, ça devient de la paresse.
Exactement.
Il y a plein d'exemples qui sont donnés justement dans l'ouvrage.
Et la peur aussi.
Justement, la peur est un esprit.
Ouais.
Tout comme quand on parle d'amour, par exemple, on sait que Dieu est amour, Dieu aime l'amour. Par contre, Satan se nourrit de la peur.
C'est vrai.
Satan, tout ce qu'il veut, c'est créer de la peur. Le simple fait de regarder un film d'horreur suscite la peur. Ça ouvre une porte le soir en rêve.
C'est vrai.
On va dire oui, mais on a regardé le film d'horreur. Oui, mais c'est une porte qu'on ouvre. Et après, les cauchemars s'enchaînent parce qu'on ouvre une porte. Spirituellement, dans le contexte spirituel, dans le monde spirituel, on ouvre une porte et Satan en profite pour entrer.
Ah, pourquoi je regarde plus de film d'horreur? C'est clair. Après quelques rêves, ça suffit. Est-ce que tu as lu d'autres ses ouvrages, Annel Anderson, ou bien...
Oui, pardon.
Parce qu'il a à peu près une trentaine de livres.
Je crois qu'il a une trentaine de livres. Et dans celui-ci, il conseille de lire un second livre en parallèle qui est une nouvelle identité, une nouvelle vie, une nouvelle identité.
D'accord.
Qui aussi en fait c'est en Christ. Donc bien sûr, quand on vient en Christ, on a une nouvelle identité, donc on n'est plus la personne comme il était, comme Romain, c'est cité dans Romains 10-17, que je ne dise pas de bêtises. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et justement, quand on vient en Christ, quand on vient en Christ, l'expression venir en Christ, c'est simplement confesser le nom de Jésus-Christ comme étant Fils de Dieu, Sauveur. Et quand lui, on a la délivrance en tout. Le confesser avec sincérité, bien sûr. Et justement, quand on vient en Christ, toutes les choses qui étaient avant, s'en vont. C'est au fur et à mesure qu'on avance, justement, ces choses sont laissées. Il y a des addictions qui s'en vont, il y a des mauvaises habitudes qui s'en vont. Même, comment dire,
c'est ça,
c'est ça, justement. On prend conscience que la vie qu'on avait avant, ce n'est pas bon. Je donne un simple exemple. On avait l'habitude de faire la fête, mais d'être chaque soirée, se prendre une cuite, manger, se péter le bide.
C'est vrai.
Mais en réalité, ce n'est pas bien en fait.
Ouais.
Tout ça en fait, ça crée des addictions. Et l'addiction,
c'est sur des mauvaises choses. Quoi.
C'est exactement ça. Et l'addiction en fait nous rend esclaves, rend prisonniers de ces choses-là. Quelqu'un qui alcoolique en fait est prisonnier de l'alcool, il est esclave de l'alcool, il est soumis à l'alcool, donc ça fait que tout le temps il est dépendant, et c'est tout ça en fait. Or qu'en venant en Dieu, en marchant en fait en Christ, on atteint une certaine liberté. Bien sûr, après il y en a qui ne le réalisent pas, il y en a qui ne le réalisent pas, qui disent non mais ce n'est qu'une chimère, mais certaines choses ne se disent pas, elles se vivent.
Oui.
Tout comme l'amour, on ne peut pas. Chacun exprimera l'amour différemment. C'est exactement ça. Certaines choses ne peuvent s'expliquer.
Oui.
C'est quand on le vit, on sent.
Oui.
Que
et
c'est
puis
ça.
Si on peut prendre aussi quelque chose qui va leur faire plus comprendre à nos auditeurs, tout simplement en étant obsédé par des choses qui n'ont pas d'intérêt, nous déconcentre sur quelque chose qui aurait pu avoir de l'intérêt.
Qui est plus essentiel.
Plus essentiel à
c'est
notre
ça.
Vie. Si on se concentre sur aller, qu'est-ce qu'on va faire ce soir toute la journée? Tu passes la journée à chercher un habit. À voir ce que tu vas boire comme alcool, je sais pas qui va aller chercher ce genre de choses, toutes ces heures où tu as perdu du temps à te concentrer sur ça, tu aurais pu te concentrer sur aider quelqu'un,
exactement.
Parler à quelqu'un qui a besoin de soutien,
encourager. Exactement, parce que justement, en parlant de Christ justement, ce que Dieu demande à l'homme premièrement, bien sûr, c'est de l'aimer et de faire attention à ce qu'il dit, parce que c'est très important.
C'est ça. Et aussi, sur chacun de nous.
Justement, et aussi, la deuxième chose qu'il demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Bien sûr, on va dire oui, mais moi j'aime un tel, mais cet amour qu'il demande ne se limite pas qu'aux personnes qu'on connaît.
C'est
ça va au-delà. C'est, même les personnes qu'on ne connaît pas. Si une personne nous a fait du mal, entre guillemets, l'amour qu'on a, en fait, surpasse tout au point qu'on pardonne. On pardonne et ben, ça fait mal, on est humain, ça fait mal, mais l'amour est tellement fort que ça passe sans baume et on pardonne à la personne. Après, bon, on s'en va, chacun son chemin, mais le pardon est accordé et le pardon libère. Le pardon est une force. Le pardon permet justement d'aller de l'avant et de franchir.
Oui, parce que les gens se disent que c'est une faiblesse. Du coup, un peu comme la colère. Quand tu dis que, par exemple, tu laisses passer la colère, ils vont dire ah mais non, je suis faible. Mais au contraire, c'est quand tu ne réponds pas à la colère que tu es plus fort que la colère.
Justement, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on va dire à cause de l'égoïsme, un peu, la société en fait a emmené l'homme à être un peu égoïste, en fait, à, pour ne pas dire se, voilà, c'est ça, se mettre en avant. Par exemple, avant, quand il se passait quelque chose, ben, les personnes se disaient bon, ben, c'est, bon voilà, c'est arrivé, on va pas faire tout en bas. Aujourd'hui, ben, pour un moindre détail, les gens se mettent en colère. Alors que la colère, je vais faire référence à une série télévisée dans Smallville. J'étais fâché.
Mais si vous voulez jamais
c'est qu'à la fois en fait le dernier épisode. Et justement, Lionel Luthor, qui est un méchant au départ, en fait, qui est un méchant, fait une réflexion à Pete, qui est le meilleur ami de Clark Kent. Il lui dit faites attention, monsieur, parce que la colère conduit à la vulnérabilité, rend l'homme vulnérable. Comme on dit, il y a un adage qui dit la colère est une courte folie.
C'est vrai.
Et même si on va dire oui, bon, on va dire les choses qui sont vraies, mais on est tellement vulnérable, on ne se rend pas compte que ben, certains profitent de la colère. On va s'énerver, on va raconter certaines choses, on va donner des ouvertures à la personne en face de nous attaquer. La colère est une courte folie.
C'est
la
colère, j'ai quelques astuces si tu veux aussi pour. Je sais pas si me dis elle est bonne, mais moi ça a beaucoup marché. Quand tu veux donner un pardon à quelqu'un, il faut juste réfléchir à ce que la personne elle le fait pas forcément consciemment et exprès. Et du coup, ce n'est pas totalement de sa faute. Et c'est plus facile de pardonner quand tu réfléchis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est aussi vrai parce que si on voit dans le cadre spirituel par exemple, on sait que des fois en fait Satan nous attaque. Bon, on passe du monde spirituel au monde physique, mais en fait quand on parle d'attaque, c'est qu'il glisse des pensées à certaines personnes. Donc la personne qui vient t'offenser, en fait, elle n'est pas consciente que il y a quelque chose d'autre qui se passe derrière. Donc du coup, ça fait que tu dis simplement ce n'est pas de sa faute parce que c'est quelque chose, ce n'est pas de sa faute, elle est juste en fait un moyen qui a été utilisé pour pouvoir
m'attaquer.
Donc du coup, je ne l'en fais pas.
Et ça aide.
Et ça aide.
Et ça aide. Tu l'as pas fini encore?
Non.
Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le Libérateur?
Dans le Libérateur, il y a pas mal de témoignages. Des témoignages justement de chrétiens qui ont traversé ces épreuves-là, des personnes qui ont été possédées, des personnes qui entendaient des voix. On parle souvent du Saint-Esprit qui vient habiter en l'homme, l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Y a des témoignages par exemple dedans d'une personne par exemple qui disait oui, l'auteur lui pose la question, est-ce que tu entends souvent Dieu? Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Et ce qui se passe c'est que la personne interrogée donc répond oui mais effectivement. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il te dit? Il lui dit ah mais des fois en fait je marche dans la rue, je demande Dieu qu'est-ce que je mange? Il me dit McDo. Oui mais c'est ça. Et je lui demande qu'est-ce que je vais faire et tout comme ça. Ah ben ça va être pizza. Et on réalise pas mais Dieu est un Dieu saint. Il va pas nous envoyer vers des choses à manger en fait de la malbouffe quoi. Je veux dire c'est pas ça quoi. Logiquement en réfléchissant non.
que
Dieu m'a dit d'aller tuer.
Ça aussi,
ben, c'est ça. Et c'est ça. Ouais. Et c'est justement ça le problème, c'est que on ne fait pas attention. Il y a des voix, il y a eu des témoignages de femmes qui disaient ben, j'entends des voix en fait des fois. Et on a une qui a témoigné qui disait que elle échangeait avec elle-même. Non. Elle échangeait avec elle-même, elle discutait. Et quand elle a commencé à prier, il y avait une résistance. Il y avait une résistance, il y avait une lutte. Et en fait, c'était un mauvais esprit qui lui parlait. Elle croyait qu'elle se parlait à elle-même, c'était son ami, machin, tout comme ça. Quand elle a commencé à prier, il a commencé à avoir des manifestations, des luttes en elle. Il y a des personnes après qui, justement, un peu en similitude, qui des fois, elles commencent à lire. Ça, c'est pas des cas de conscience, mais elles commencent à lire, c'est plutôt des manifestations pour empêcher la personne de prier. Il y a des fatigues. On commence à prier, on tombe de sommeil. On commence à lire la Bible, on est fatigué. Alors que pourtant, dès qu'il s'agit de faire autre chose, waouh, c'est la paix.
C'est vrai.
Et c'est ça. Et il y a des témoignages de qui justement font prendre conscience, ah mais mince, c'est vrai qu'il fait un temps, j'avais ça, ah je connais un tel qui est dans cette même. Et c'est ça en fait, tout ça, ce sont des exemples qui permettent de prendre conscience. Moi-même au départ, je le disais, je me suis dit punaise, mais quand est-ce qu'il va nous lâcher avec ces témoignages, mais en fait non, c'est instructif, ça permet justement, ça permet de prendre conscience que on pense souvent que y a que les non-chrétiens qui sont attaqués, qui sont possédés, mais en fait c'est tout le monde.
Plus tu te rapproches,
c'est ça,
du Seigneur, plus tu es aimé. Mais c'est aussi les gens qui n'arrivent pas à discerner le saint du malsain, c'est ceux qui ne connaissent pas réellement Dieu après.
Mais c'est justement pour ça qu'on dit que c'est important de connaître la vérité, que quand on lit la Bible, justement, Jésus-Christ, le Seigneur, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que quand on est face au mensonge, c'est parce qu'on connaît la vérité qu'on peut se dire, on peut dire ça, ce n'est pas la vérité, je mets de côté, je m'en voile, c'est ça. Je ne m'en occupe pas, c'est faux, ce n'est qu'un mensonge.
En quoi cette lecture a changé ta vision sur, par exemple, la peur et l'esprit?
Disons qu'elle a renforcé quand même certaines choses. Au niveau de la peur, je dirais que depuis un certain temps, je savais que la peur est un esprit mauvais et que généralement la peur tétanise. Et quand on est souvent sous la peur, on a tendance aussi à penser que la peur c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de... En fait non, ça peut être la peur, c'est comme je disais au départ, Satan est tellement malin qu'il glisse de petits mensonges. Donc ça va être la peur de je vais manquer de pain, ça va être la peur de peut-être que je n'aurai plus ceci, ça va être la peur de peut-être que il va arriver quelque chose, peut-être que ma copine va partir, peut-être que ma copine va faire ceci, peut-être que mon copain va faire cela. Et ça crée une peur, ça crée de l'anxiété, ça crée après une
mauvaise réaction,
c'est
aussi,
ça. Et donc ça fait que toutes ces choses, ça paraît juste anodin, ça paraît on va dire non mais c'est normal, au jour d'aujourd'hui il y a ceci cela, mais c'est une peur que l'ennemi glisse dans l'esprit des gens et on se rend pas compte. Et il y a plein de choses qui justement m'ont permis de prendre conscience, effectivement, moi-même à un moment donné je disais tiens la crainte de manquer de ceci, la crainte de cela, peut-être que si je fais ceci un tel sera fâché, et ça, on se met dans des positions où on n'est pas censé être dans cette position. Donc du coup ça m'a
sens sur les mauvaises choses,
exactement. Ça m'a permis de ça fait qu'on se focalise beaucoup sur la peur,
c'est vrai. Donc, il y avait quelqu'un qui disait nos peurs sont notre mort, c'est un peu ce qu'on raconte d'ailleurs parce que ça nous empêche de tout faire et
c'est
du
vrai.
Coup on n'est plus actif, on n'œuvre plus. Pourquoi a-t-on plus peur ces dernières années, j'ai l'impression, quand même
disons que c'est un peu aussi la société qui nous conduit vers
c'est
cette
vrai.
Parce que
si... Prenez cette assurance.
c'est un peu ça, on va dire que avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, on va parler de terrorisme, on va parler de la violence qu'il y a dans les quartiers
dans
les films. On remarque bien aussi même les films. Là, il y a une croissance au niveau des films d'action, en fait, de la violence dans les films.
Ouais, c'est ça.
Dans les films d'action, en fait, il y a de plus en plus de violence, des scènes explosives.
C'est
bien, on aime de l'action. Mais entre-temps, c'est juste une représentation de ce qui se passe dans la société. Même au niveau des films d'horreur. Avant, un film d'horreur, c'était un petit maquillage, machin, tout comme ça. Aujourd'hui, L'exorciste, c'est vrai qu'il faisait peur. Mais
oh mon Dieu.
sais pas si tu l'as vu, Evil Dead.
Non, je regarderai pas.
Tu vois, en fait, les anciens Evil Dead, c'était de l'humour. Tu vois, le gars qui se scie la main mettre sa scie à la tronçonneuse, et la tronçonneuse fonctionne malgré qu'il s'est coupé le bras, quoi, en fait. Ça tire un peu à l'humour, quoi. Je veux dire, réellement, tu te coupes le bras, tu
en manges. Jason, ça, c'est un film d'horreur facile, gentil, on va dire.
Même pas, c'est style.
Parce que les films d'horreur aujourd'hui, c'est plus, ça te joue plus sur l'esprit au point que tu te rends pas compte.
En fait, la chose, c'est que, par exemple, Evil Dead, l'ancienne version, le gars s'était coupé le bras parce que sa main était possédée. Et en fait,
il a littéralement écouté les paroles.
Il a coupé ça au sens propre du terme. Et bam, il se coupe le bras, il met son bras dans la tronçonneuse et la tronçonneuse fonctionne. Et dans la dernière version, ce qui se passe, c'est que c'est une héroïne cette fois. Et elle fait un peu la même scène, sauf que la scène est tellement excessivement hardcore. Elle découpe une personne à la tronçonneuse. Tu te dis là. Normalement, le corps humain a 5 litres de sang. Là, je crois qu'ils ont au moins dépensé une quinzaine de litres.
C'est excessivement
gore. Même les films d'horreur, on va de plus en plus dans ce qui est trash. Quand on voit Saw, je suis désolé, mais c'est un film qui est... C'est même pas un film à regarder. Je sais même pas comment ils sont arrivés à 7, 6 ou 7.
Saw 6. Ouais, Saw 6. Parce que je m'en rappelle, il y avait quelqu'un qui avait une blague, qui avait dit Saw 6, c'est pour ça que je m'en souviens.
C'est vrai. Non, mais c'est ça en fait, ça fait que on va de plus en plus dans l'horreur, dans l'atrocité. Ça crée une peur parce qu'on se dit, ah mais punaise, si ça arrive aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans ce délire de si ça arrive aujourd'hui, si ça arrive aujourd'hui.
Il y a des gens qui font plus rien à cause.
C'est justement ça. Comme en 2012, on disait 2012 c'est la fin du monde. Et tout le monde était dans cette peur. Il y en a qui ont fait des crédits parce qu'ils se disaient au moins je meurs, je ne vais pas rembourser. Il y en a qui ont créé des bunkers. C'est ça. Il y en a qui ont créé des bunkers, fait des réserves. Ouais, au moins si on crève. Il y a même eu un film qui est sorti.
C'est vrai.
Mais tout ça, ça suscitait la peur, ça suscite la peur et les gens paniquaient. Les gens se disent mais qu'est-ce que je fais? Moi-même, j'avoue, à un moment donné, je me suis dit mais punaise, mais ça sert à quoi que je continue mes études? De toute façon, en 2012, je crève.
C'est vrai.
Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et le problème, c'est cette peur. Le diable s'en nourrit. Cette peur, en fait, justement, ça, il jubile, ça lui fait plaisir. Il arrive, il ricane, fait.
Ouais, c'est ça, parce qu'on ne fait plus rien du coup.
Mais c'est ça, on reste prisonnier, on est tétanisé par la peur, on ne fait plus rien.
Ça me fait plaisir.
Et donc, ce livre, franchement, il m'a permis de prendre conscience que il se passe des choses. Par exemple, il y a certains événements qui arrivent juste pour susciter de la peur. Même quand on regarde, il y a des scènes, des films, exemple, des films d'horreur où on te fait sursauter.
Ouais.
Le fait de sursauter, ça te surprend, ça crée un instant de peur. C'est quoi? C'est tout ça.
C'est clair. C'est un livre à relire, j'imagine, pour se réimprégner des conseils. Mais est-ce que tu le lirais de la même manière une seconde fois? Parce que là, je pense que plein de prises de notes là.
Oui, justement, je pense que la seconde. Des post-it musicolores.
Chaque post-it a un thème en plus.
C'est ça.
Donc
c'est
tu
ça.
Le lirais comment la prochaine fois, par exemple, si tu es amené à le relire?
Justement, en fait, si je suis amené à le relire, je pense que je serai amené à le relire. Je lirai surtout en fait les conseils qui sont donnés, les avertissements et aussi en fait les témoignages qui sont donnés des personnes en fait qui ont traversé ces choses, parce que ces témoignages permettent de nous rendre compte que sinon autour de nous une personne se retrouve dans la même situation, parce que justement à la fin du livre l'auteur donne des conseils sur si des personnes autour de nous justement se trouvent dans les mêmes situations, ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est toujours bon d'aider les autres, c'est toujours bon parce que le livre s'adresse en même temps à nous-mêmes, parce que justement à la fin il y a des prières justement pour être délivré de toutes ces choses, être délivré des mauvaises pensées, des pensées de découragement, des pensées de suicide. Il y a eu même d'ailleurs des témoignages d'une femme qui pensait se suicider, elle a tenté de se suicider et plus tard elle a rencontré l'auteur et par des séances d'aide et tout qu'en sort, elle a trouvé la liberté en Christ, quoi. Elle a été contente. Et justement il y a des lettres de ces personnes qui racontent en fait ce qu'elles ont traversé et ce qu'elles vivent au travers de la liberté qu'elles ont eue. Donc c'est un livre à relire. Je pense que de temps en temps, le relire permet de garder à l'esprit certaines choses, de quand même se dire il faut rester prudent et d'aussi être réaliste que même si aujourd'hui on dit il y a le monde physique, le monde physique et le monde de l'atome et tout comme ça, le monde spirituel existe réellement.
Tout à fait.
Le monde spirituel existe réellement parce que aujourd'hui, il y a des personnes, bon, non citées dans le livre, mais il y a des personnes, il y a eu des témoignages de personnes qui ont carrément dit qu'elles ont été poussées. Je crois aussi dans le livre exactement, aussi un exemple est cité, d'une personne qui, en fait, a été poussée à agir justement, à faire du mal. Il y a un jeune justement en fait qui c'était un jeune de 10 ans je crois qui déchirait ses vêtements, découpait ses vêtements, il se battait à l'école, il frappait. Et quand on lui demande en fait pourquoi tu fais ça, il dit non mais en fait j'entends une voix qui me dit si je le fais pas, il va tuer papa.
Wow.
C'est ça en fait. On se rend pas compte, mais même ça, des témoignages comme ça en fait, ça permet de comprendre que quand on voit par exemple un enfant qui est turbulent, bien sûr on va lui donner un traitement, mais il faut aussi chercher à comprendre est-ce que le trouble dont il subit n'est pas d'ordre spirituel.
C'est ça, ouais.
Est-ce que c'est juste l'ordre mental, en fait, il est juste malade mental? Non, ça peut être aussi d'ordre spirituel.
C'est
important de prendre conscience de ça.
Pourquoi tu as acheté cet ouvrage?
En fait, il m'a été donné, enfin,
d'accord,
prêté surtout, en fait, pour que je puisse lire et moi aussi m'édifier.
Ouais, tu vas le rendre, hein?
Non, mais j'achèterai le mien,
c'est
en plus.
Comment tu as été amené à justement à lire ce livre? Parce que il est sorti il y a plus de 10 ans, quelque chose comme ça, tu m'as dit qu'il était...
Oui, il était sorti il y a plus de 10 ans, dans les années 90, il me semble.
Ouais.
Et c'est ça, dans les années 90.
Mmh.
Et il a été réédité et on a rajouté quelques textes, justement.
Ouais.
Donc comme l'auteur a continué à pratiquer, justement, comme il exerce en tant que conseiller en relation d'aide, et je pense qu'il a continué, en fait, à exercer en exerçant. Il y a d'autres témoignages qu'il a rajouté justement.
C'est bien ça. Les témoignages, c'est important parce que ça aide justement à s'identifier à d'autres personnes et dire que
exactement,
ça peut arriver à d'autres. Et puis ça
n'arrive pas qu'aux autres parce que ça nous arrive aussi.
Voilà,
si par exemple, je veux dire, c'est une personne qui justement a tout le temps ses pensées de découragement, ses paroles dans l'esprit qui disent de toute façon tu es nul, tu ne sais rien faire, tu es laid ou tu es laide, de toute façon qui va t'aimer, personne ne va t'aimer. Tout ça en fait, ce sont des pensées négatives et c'est Satan qui nourrit ça. Sauf que si on ne prend pas conscience de se dire c'est sans effet, c'est faux, au nom de Jésus je refuse ça, en fait on reste soumis à ça, ça fait qu'on ne fait plus rien, on se laisse aller et ça, Satan il en profite un maximum, il en profite et des personnes, ça devient des cas graves et c'est des personnes qui vont dans des hôpitaux psychiatriques, on croit que les personnes sont atteintes mais en réalité c'est d'ordre spirituel.
Ouais, des solutions on va dire de ce monde en fait. As-tu des préférences estivales en termes de lecture?
C'est un peu fou, c'est difficile comme question parce que j'avoue que en termes de livres, je suis un peu porté sur, on va dire, sur les livres qui sont sur le thème de la foi.
Bien sûr.
Et tout ce qui est historique, biographie, je m'intéresse, je lis souvent ces livres.
Quel est ton style littéraire que tu aimes lire tout au long de l'année?
Ah, très bonne question. Je dirais tout ce qui est livre de la foi.
D'accord. Pas de roman, pas de sci-fi, pas de thriller.
Non.
Pas des cauchemars.
Non, mais en fait, sinon, y a des livres autobiographiques qui sont pas mal.
Ouais.
Philosophique aussi,
ouais,
parce que j'aime bien la philosophie.
Bien sûr, c'est clair.
Et tout ce qui fait cogiter.
Ouais, voilà.
Bon, bien sûr, après, il y a philosophie et philosophie.
Bien sûr.
Donc, en tout cas, il y a quand même de bons auteurs. Moi, je sais que niveau philosophique, il y en a deux qui m'ont plu. Les semences du bonheur.
D'accord.
De Mikhaïl Ivanov.
Oui.
C'est un livre d'ailleurs, je l'avais lu il y a quelques années, je l'ai racheté pour le relire.
Okay.
Donc,
J'imagine que tu ne vas pas avoir les mêmes perceptions, bien sûr, quand tu lis.
En plus, au départ, quand je l'avais lu, on va dire, je connaissais la parole de Dieu, mais je n'étais pas converti.
Mmh.
C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment donné ma vie, dire que voilà, aujourd'hui, c'est décidé.
C'est
et en fait, l'auteur là-dedans parle, c'est un philosophe, mais c'est un philosophe en fait qui croit en Dieu. Donc, il parle en fait de certaines choses, de choses simples, dont l'amour par exemple.
Est-ce que tu es un grand lecteur en général?
Je l'étais avant, maintenant je me remets sur les rails. Donc maintenant je reprends la lecture.
Qu'est-ce qui s'est passé entre deux?
En fait, on va dire que je lisais beaucoup. Je lisais, j'avais une période où je lisais pas.
Mmh.
Ensuite il y a eu un pic.
Ouais.
Ensuite j'ai eu une baisse.
Ouais.
Après j'ai découvert, je connaissais déjà, mais j'aimais les mangas avant.
Mmh.
Donc je préférais plus lire les mangas que lire des romans, des trucs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que la lecture, comme on dit, la connaissance en fait, la connaissance est importante et. comme on dit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissances.
Exactement.
Donc il est important de lire, ça nous permet justement de connaître certaines choses dans la parole, donc de connaître la vérité. Mmh. Et quand par exemple on se retrouve face à des personnes, on voit aujourd'hui en fait l'émergence de sectes, et ça nous permet justement de se dire, c'est étrange mais... C'est parce que
ça voilà, mal à l'aise.
C'est ça me dit rien, ça. C'est il y a quelque chose, ça titille à l'intérieur, c'est non clair. Je suis et c'est ça en fait. C'est parce que au fur et à mesure qu'on apprend, on connaît la vérité. Quand le mensonge se présente devant nous, l'esprit dit mais écoute, je suis désolé, mais tu sens qu'il y a, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Tu sens que ben là la personne me raconte un bon bobard, il joue de la flûte, du violon.
Tu le fais bien. Je t'apporte une flûte. Il y a des mangas spirituels qui existent du coup ou pas?
Ça je sais pas, disons que je lisais beaucoup tout ce qui était manga d'action, des trucs comme ça. Et même je regarde aussi les mangas.
Moi je sais pas s'il y en a non plus.
Des spirituels, si, il y a des dessins par contre, c'est sûr, bon, c'est des bandes dessinées, c'est plus des mangas, c'est des bandes dessinées en fait qui existent. Et oui, il y en a, par exemple sur Moïse, on a vu le prince, l'histoire du prince Moïse, et on a aussi en bande dessinée. Je pense qu'il y a des bandes dessinées qui existent de la parole, généralement aussi pour les enfants. Donc il faut en chercher en fait.
Alors faut aller mettre dans les bibliothèques ça. Alors tu as un agenda chargé puisque tu es chrétien activiste, aussi tu es indicateur plus particulièrement. Comment tu trouves le temps de lire justement? Parce qu'il y a des gens qui ont plein d'excuses pour pas lire.
Oui, au départ c'est ce que j'avais en fait. C'est ce que j'avais, mais au départ je me suis dit bon allez je vais lire dans les transports vu que je mets du temps pour travailler, en fait pour aller au travail, pour me rendre au travail. Je regardais des gens qui lisaient dans les transports, je me suis dit tiens, ils disent non t'as pas d'aller, je crois que je vais faire la même chose.
Exactement, c'est ça.
Et du coup progressivement je commençais un peu et je me suis dit bon ben. En même temps, qu'est-ce que je fais dans les transports? Généralement, qu'est-ce qu'on fait dans le transport? On est sur le téléphone.
C'est ça.
Et déjà même quand on remarque bien autour de nous dans les transports, les gens sont sur le téléphone, soit ils lisent. Donc je me suis dit, quitte à perdre du temps, enfin non pas perdre du temps, quitte à faire quelque chose, autant se cultiver. Comme Candide le dit, à la fin du livre, après toutes les péripéties qu'il a vécues, il dit, il vaut mieux en fait cultiver son jardin. Donc,
exactement.
Cultiver son jardin, on peut voir ça comme le jardin comme étant en fait la connaissance, le champ pour la connaissance. Et d'ailleurs, dans la parole, on fait souvent allusion au champ, la vie,
la moisson.
Donc, la parole en fait, c'est la semence, le champ, c'est notre être, c'est l'âme, l'esprit. Et au fur et à mesure qu'on lit, ben, on s'édifie, que ce soit le livre de la parole, que ce soit une lecture qui nous instruit, plus on lit en fait des choses qui sont intéressantes, qui nourrissent l'esprit, c'est en fait, mieux c'est. Donc du coup, maintenant, quand je suis dans les transports, je lis.
Tu lis plus particulièrement dans les transports en général?
Dans les transports et aussi avant de dormir, en fait. Je prends un petit temps, même si c'est 5 minutes.
En plus, ça permet de liquider un peu les...
C'est ça, évacuer la journée.
C'est ça.
Journée pour Ave, le collègue qui vient nous embêter. La pression.
La jambe des chats, non, c'est ça, exactement.
Et donc, du coup, ça fait toujours du bien.
Juste, peux-tu expliquer ce qu'est un indicateur pour les auditeurs?
Un indicateur, c'est une personne qui, dans l'église, en fait, a pour rôle d'indiquer. Le soir, en fait, très. En fait, on va dire qu'elle répond à toutes les questions dont on se pose. Parce que généralement, quand. On vient dans la foi, on est nouveau dans la foi, on se pose beaucoup de questions. Par exemple, on se demande est-ce que Dieu existe réellement? Comment savoir quand c'est vraiment le Dieu qu'on prie? Qu'est-ce qui nous... On se pose pas mal de questions et le rôle des indicateurs, c'est justement répondre à ces questions. Bien sûr, au travers de la parole, parce que toutes les réponses sont là-dedans. Donc, au travers de la parole, au travers de témoignages, parce que même si on est aujourd'hui 7 milliards de personnes,
on est tout seul.
Non, on n'est pas tout seul. Non, même si on est 7 milliards de personnes, en fait, on traverse des choses, on traverse des similitudes. Il y a des personnes qui, par exemple, sont venues au Seigneur parce qu'elles ont traversé des choses qui... Et c'est au travers de la lecture de la parole qu'elles ont été délivrées. En fait, elles ont reçu, on va dire, la paix dans leur cœur, en fait. Et justement, même si, on va dire, on vient, qu'on croit en Dieu, on a quand même des questions qu'on se pose. Il y a des choses, même en lisant la Bible, on se dit, mais je ne comprends pas telle chose. Mais nous, on répond. Donc, on explique. Bien sûr, on travaille, on répond, on apprend. approche, on répond à la question, et s'il y a d'autres questions, ben, au fur et à mesure, en fait, c'est ça. On répond aux questions un peu plus de manière claire, simple, sans déformer la parole, en s'appuyant sur la parole.
Toujours. Ok, un moment de lecture préférée ?
En revenant du travail, dans les transports, oui. Sinon, après manger, petite lecture avant de dormir, et voilà.
Et quel est ton rythme de lecture en général? Tu avales combien de livres par jour, par mois, par semaine? Non, pardon, j'abuse. C'est trois livres par mois. Non, par, on va dire par mois.
On va dire que là, comme je me remets, je suis à peu près à 2 livres par mois.
C'est très bien.
Parce que je prends le temps, en fait, de lire. Et comme par exemple ces livres, celui-là que je lis, Le Libérateur, il y a des versets qui sont cités. C'est comme un moment d'étude pour moi, parce que je prends le temps de lire le verset, bien sûr, on cite un verset, mais lire un verset, des fois, je trouve pour moi, ça ne me suffit pas. Je préfère lire le chapitre pour comprendre le contexte. Pourquoi est-ce qu'on cite ce verset, en fait? De quoi est-ce qu'il parle dans ce verset? Qu'est-ce qui est dit avant? Qu'est-ce qui est dit après? Au moins, ça permet de mieux comprendre. Et puis en même temps, plus on lit, plus on s'enrichit.
C'est ça, on comprend et on s'enrichit. Exactement, oui. Alors, d'autres projets de lecture pour la suite de l'été?
Ah ah, oui, bien sûr.
Pile, là.
Non, mais sérieux, c'est que j'ai acheté pas mal de livres et du coup, là, je risque pas d'en manquer, en fait.
Et tu les achètes où, tes livres?
Il y a la Maison de la Bible qui est à la gare de Lyon, la Maison de la Bible. Sinon, à Châtelet, il y a aussi une librairie chrétienne qui est CLC.
D'accord, ok. Donc quel est ton prochain livre?
C'est le même auteur.
D'accord.
Et c'est celui que je disais au départ, c'est une nouvelle identité, une nouvelle vie.
D'accord.
Une nouvelle identité.
Ok. Donc, est-ce que tu prêtes tes livres?
Oui, moi ça me dérange pas de toute façon. Donc,
c'est savoir que les abîmes pas trop. Toi, tu tiens bien apparemment tes livres qu'on te prête.
Oui, malheureusement, j'ai une bouteille d'eau qui s'était renversée dans le sac. En général, je prends soin des livres.
Ça sèche. Voilà. Tu prends soin des livres.
Je prends soin
des livres. À qui passeras-tu le Libérateur quand tu l'auras fini?
Disons que comme ce n'est pas le mien,
oui, c'est vrai.
J'en achèterai un et je pense que je prêterai à tous ceux qui veulent.
T'as qu'en acheter et tu les donnes, tu les offres.
Ouais. J'en avais un que j'avais fait. Qu'on m'avait donné en plus.
D'accord.
C'est c'est le contrebandier.
D'accord.
Du frère André, c'est le fondateur des Portes Ouvertes.
D'accord.
Enfin, pas l'église Portes Ouvertes à Toulouse, mais il y a une association chrétienne qui s'appelle Portes Ouvertes.
D'accord.
Et l'auteur, il s'appelle Frère André. Mmh. Et c'est une œuvre autobiographique.
D'accord.
Donc c'est lui l'auteur et il raconte en fait ce qui s'est passé. Il contrebandier parce que ça se passe pendant le mur de Berlin, donc le rideau de fer et tout ça, et il explique comment est-ce qu'il franchit le rideau de fer pour apporter des bibles aux chrétiens qui étaient justement... C'est vraiment accrocheur. Et en fait, ça s'était passé à Aix. Il y avait un monsieur de l'église des Portes Ouvertes, l'association Portes Ouvertes, qui est venu. Bon, il présentait l'œuvre des Portes Ouvertes. Et du coup, à la fin, il m'a donné. Je suis allé le voir, en fait, j'étais intéressant. Et du coup, il m'a tendu le livre, il m'a dit écoutez, lisez-le, quand vous l'aurez terminé, vous le passerez à une autre personne.
C'est
et ça fait une chaîne, en fait.
Exactement,
et ça, c'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal, ça fait que les livres tournent. Et celui à qui je suis passé, c'est un frère qui était avec moi à Aix aussi. J'ai dit, à la limite, ce qu'on fait, pour savoir le nombre de personnes qui ont lu, on marque les noms. Et c'est marrant parce que moi, à la fin, on a une liste de noms et tu dis, waouh, c'est passé entre les mains de toutes ces personnes. Et ça, c'est marrant.
Et puis ça ne limite pas la lecture du livre.
C'est
certaines personnes qui n'ont pas les moyens ou d'autres qui se disent aussi des excuses, tu sais.
Du coup, c'est vraiment intéressant parce que c'est important. La connaissance est importante. Ouais. L'ignorance, on va dire. L'ignorance c'est une mauvaise chose parce que c'est parce qu'on est ignorant qu'on se fait beaucoup manipuler.
C'est
en tout, que ce soit au niveau
dans
de la foi,
choses, hein,
au niveau
tout.
Même de la société, quand on voit les politiciens, je veux dire. Ça va être méchant, mais ça peut être le dindon de la farce. On vous promet une aile de poulet le midi, on fonce dessus et arrivé là. Et arrivé là, c'est pas ça quoi. Donc,
c'est
du coup, c'est un peu ça. Donc la connaissance, c'est important d'avoir la connaissance.
C'est une bonne arme.
Et ça nous évite bien des choses quoi.
Ouais. Merci Lionel pour nous avoir fait découvrir cet ouvrage, Le Libérateur de Nell Anderson. Et à bientôt pour de prochains bouts de lecture sur Même Radio. Much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. too complex. Bout de lecture, une émission pour les amoureux de lecture avec des amoureux de lecture. Je suis au magnifique jardin du Luxembourg accompagné par Maximilien Tari Calafar. T'as vu, je l'ai fait l'américain. Pourquoi ouais, j'ai tous les noms à la vue.
Calafar. Oh,
Calafar.
Oh, yes, that's me.
Fondateur de Le Closet Magazine qui a changé de format, qui est là devant mes yeux. C'est la première fois que je vois ce format. C'est original, depuis quand?
C'est la première fois qu'on fait un format aussi grand. On avait déjà fait un test sur l'avant-dernier numéro,
ouais.
Qui était déjà un peu plus grand. Mm-hmm. Et là, on a lâché les chevaux et on a fait un big format.
Pourquoi le changement?
Pour bien montrer nos photos, parce que on se targue de faire de belles photos, mais j'avais l'impression que personne ne les regardait parce que le format était trop petit.
Ouais.
Et donc maintenant, c'est la première chose qui saute aux yeux.
C'est ça.
Et puis, il y a un confort de lecture aussi.
Mais même au niveau du confort, il y a aussi des différentes façons de tourner le magazine, on peut le tourner dans tous les sens.
Ah oui, tourne dans tous les sens, ça a toujours été notre signature, on tourne dans tous les sens,
cool.
On retourne, notre DA fait un très bon boulot là-dessus et c'est vraiment ce qui fait notre particularité.
Alors le Closet Mag, c'est un magazine de mode et lifestyle.
Voilà, mode, lifestyle, et on est beaucoup sur les produits, on est vraiment sur l'objet.
Mmh.
On va dire, bon, j'aime pas ce terme-là, mais on parle de street culture, mode urbaine,
cool.
C'est pas trop notre truc, mais effectivement, on est sur des basiques. Des produits qu'on met de tous les jours et aussi, chose qui est très rare en ce moment, des produits de sport performance.
C'est
parce
vrai.
Que tu sais de quoi je veux parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, qui mettent des produits de sport pour aller acheter du pain, etc. Mais
c'est clair.
Nous, on fait du sport avec et on aime bien parler de technologie, de produits, de tests, etc.
Des choses qu'on utilise au quotidien.
C'est ça.
Quelqu'un avait dit qu'il n'était pas content parce que c'est un sportif aguerri et il disait que ça l'énervait d'aller voir des gens avec des baskets toutes neuves. Mais ne pas faire des
choses. C'est quelque chose de rageant.
C'est ça.
Surtout quand on se rend compte du prix et de la technologie qui a été mise dedans et qu'il y a des sportifs qui ont besoin de ces produits mais qui ne peuvent pas se les offrir et d'autres qui, pour parler vulgairement, n'en ont rien à foutre. Les mettent juste pour faire les beaux.
Sinon, comment va ton été?
Mon été va bien. Il commence là. Il fait chaud. Je n'aime pas trop ça, mais ça va. On va faire avec. On va pas se plaindre.
Avec les jours chauds qui arrivent.
Il y a des saisons. Je suis contente. La terre continue de tourner.
C'est clair. Alors, tu es un nouveau papa depuis quelques jours.
Ouais, j'ai une petite fille qui s'appelle Bobby, elle a 2 mois, elle est belle.
C'est clair,
elle
fait ses nuits.
Non, mais c'est un bébé, mais elle dort bien.
Toi, t'as l'air d'être en forme quand même.
Ça va.
Si tu veux bien, tu fais des siestes.
On s'entend bien avec vos voitures.
Donc, pas de vacances prévues ces prochains jours?
Si, on va chez madame, on va aux Pays-Bas, comme tous les ans.
Il va faire frais, tu vas être bien.
Ouais, il fait toujours froid là-bas. C'est dingue. Hein. Mais voilà.
T'arrives quand même à travailler avec toutes tes activités?
Non, c'est surtout avec les 3 enfants que j'arrive pas à travailler.
Non, mais
non,
calme.
C'est mort. 3 enfants, t'as plus de vie.
Comment tu t'organises alors?
Comme je suis la nounou, en gros, je suis à la cuisine toute la journée, donc je prépare le petit déjeuner. Après, c'est l'heure de faire le déjeuner, de goûter. C'est important de goûter. Et parce que j'achète pas, je fais.
Ouais,
et le dîner, et après, ils doivent se coucher. Et entre-temps, on essaie de caser du sport ou de la lecture ou du dessin.
Comment tu t'organises pour ceux qui disent j'ai des enfants et j'ai pas le temps de faire du sport? T'es un garçon et tu trouves quand même le temps de faire du sport?
En général, quand j'ai les enfants, je fais le soir. Pendant l'année, je préfère faire du sport en journée, entre midi et 2, ce genre de choses.
Ouais.
Tu es au bureau, tu sors du bureau, etc. Ça range pas sur le programme de maman ça range pas sur le programme des enfants parce que j'aime aller chercher mes enfants à l'école, par exemple.
C'est
un point d'honneur à faire.
Il y a beaucoup de pères qui aiment ça. Aller aussi accompagner les enfants.
Comme ça, j'aime pas trop, mais je suis obligé. Je préférais me lever plus tard et laisser la maman le faire, mais bon, on se débrouille.
C'est ça.
Il n'y a rien de mieux que les enfants sur la terre. Donc
bien s'organiser quand même.
C'est ça.
Et comment tu trouves le temps de lire aussi?
Déjà, je suis quelqu'un qui se déplace en transport en commun. Donc je ne lis quasiment que dans le métro, etc.
Voilà.
Et souvent, on peut même me voir sur un siège à l'arrêt, dans une station, parce que je sors du métro, mais je veux finir ma page, je veux finir mon chapitre, donc je continue, je lis, et après je sors, etc.
Ouais.
Et voilà, mais quand j'étais étudiant, je lisais énormément. À l'époque, je lisais pour ma culture générale. Maintenant, je lis plus pour des recherches ou ce genre de choses.
Ouais, ce sont tes choix, surtout. Pas des lectures imposées.
Oui.
On sait bien, t'arrives à t'organiser. Alors, est-ce que tu apprécies Paris en été ou
j'adore Paris.
Je préfère t'en aller.
Je suis un peu... nostalgique de l'époque où Paris était vide en août.
Ah ouais,
et avec nous, on était contents, mais non, j'aime bien Paris en été.
Non, c'est bien.
C'est une belle ville, c'est l'une des plus belles villes au monde. Je fais du sport. Déjà, je fais le tour de tous les terrains de basket parisiens.
Il y en a un derrière nous, justement.
Ouais, il y a le jardin du Buco. Donc, j'essaie d'aller jouer sur tous les terrains au moins une fois en été. Et puis, il y a des terrains où je joue beaucoup plus. Et après, je sais pas, je m'occupe des enfants, c'est surtout ça, quoi.
C'est clair. Tu les emmènes avec toi?
De temps en temps, mais après, j'essaie de pas les forcer le basket, la passion de papa, etc. Mais parce qu'ils n'auront pas le choix, en fait, comme ils sont très grands et très costauds, ils sont obligés de jouer à un moment ou à un autre. Donc, pour l'instant, je les laisse respirer, mais après.
Ouais. Moi, je fais le tour des parcs, toi, tu fais le tour des terrains.
C'est ça. Mais après, il y a des terrains dans les parcs aussi, donc.
C'est ça, j'ai fait les deux. Alors, même dans tes lectures, tu restes très mode et lifestyle. Alors, présente-nous les trois livres que tu lis en ce moment.
Alors, en ce moment...
Ils sont gros.
Ouais, ils sont gros, ils sont beaux. comme je disais tout à l'heure, maintenant, les livres, j'ai choisi plus par rapport à mon activité professionnelle. Ouais. C'est-à-dire que le magazine, c'est un magazine... On va dire que je suis spécialisé dans la mode urbaine et avec une niche de niche sur les sneakers et les produits iconiques. Ouais. Et donc, là, je faisais des recherche sur notre prochain numéro qui sera basé sur ce qu'on appelle les sous-cultures. Mm-hmm. En fait, c'est les communautés de jeunes. Donc qui dérivent souvent de la musique, donc les communautés reggae, les communautés skinhead d'ailleurs qui dérivent du reggae. Ouais. Ça peut être le rockabilly, c'est le hip-hop, etc. Ouais. Et je vais décrypter toutes ces tendances de mode. Mm. Voilà. Et par rapport à ça, j'aimais beaucoup de théories, mais il faut quand même que je me base sur
bien
du
sûr,
concret.
Ouais.
Donc j'ai beaucoup de souvenirs parce qu'on est des enfants des années 80, donc il y a pas mal de mouvements qu'on a vu naître.
Ouais.
Mais après, on a besoin d'un peu de concret, donc il y a des gens qui ont écrit des bouquins là-dessus, qui ont décrypté les trucs, et ça permet à l'école, à notre époque c'était pas internet, c'était la bibliothèque, donc j'ai gardé ce réflexe là d'aller chercher des livres, et même des fois c'est juste pour voir les images, pour pouvoir étayer un argument, dire quelle paire de chaussures il portait à ce moment là ou ce genre de choses, quelle était la marque du t-shirt, et voilà. Donc là j'ai trois bouquins que je suis en train de lire en ce moment. Il y en a deux qui sont très connotés hip-hop, parce que je bossais sur un truc avec Doc Martens. Il y a Short Kings, ils se targuent être les pionniers de la mode hip-hop.
Okay.
Avant que les marques comme Karl Kana, etc. existent, il y avait Short Kings, mais je suis sûr que ça va te rappeler quelque chose, parce que finalement, quand tu regardais tous les clips de l'époque, des Belles Bifes de Veau, de TLC, de Guide, tout ça, ils portaient des t-shirts qui étaient graffés avec des dessins, etc.
Ah.
Et en fait, c'était des petits mecs de New York qui faisaient ça et qui vendaient à tous les rappeurs. Et ils ont connu tellement de succès que les rappeurs les ont engagés pour faire leur tenue, pour les pochettes d'albums, pour faire les clips, etc. Donc le prince de Bel Air, Théo Huxtable dans Bill Cosby, quand tu voyais Théo porter des suites avec sa tête graffée, en fait c'était ces mecs là qui faisaient.
D'accord.
Donc c'est une vraie pépite avec plein d'anecdotes. C'est vraiment vraiment intéressant. En même temps, il y a un petit parallèle avec Dapper Dan. Je sais pas si vous vous souvenez des pochettes d'albums hip-hop. Enfin, tous les rappeurs à l'époque ils portaient du Louis Vuitton, mais c'était pas du Louis Vuitton. C'était Dapper Dan qui customisait des tenues pour eux et mettait des logos, des monogrammes de toutes les marques de luxe que les mecs pouvaient pas se payer. Mais finalement ça coûtait aussi cher que les authentiques. Mais ces mecs là n'allaient pas dans Downtown Manhattan, ils n'allaient pas sur la 5ème avenue. Ils préféraient rester à Harlem.
Ouais.
Avec Mike Tyson, avec le prince de Bel Air, avec Eric B. and Rakim. Ils étaient entre eux, ils avaient des trucs. Vous regardez toutes les pochettes de l'époque, du Queen Latifah, tous ces mecs étaient habillés par ça.
D'accord. Donc, Shirt Kings, c'est beaucoup de photos quand même.
C'est beaucoup de photos, mais il y a beaucoup d'anecdotes.
Il y a aussi des histoires.
Il y a des histoires parce que d'une part, ils racontent comment ils ont commencé leur truc. Et après, ils te racontent, par exemple, ils te racontent des bagarres au Mac Tyson et là, en train d'attendre son t-shirt, il y a un autre poids lourd que Mac Tyson a battu précédemment qui débarque et qui provoque Tyson. Donc Tyson le tape, mais il part en courant. Il y a énormément. Ou bien, c'était vraiment un repère de tous les rappeurs. C'est-à-dire qu'ils expliquent comment Jam Master Jay, le DJ de Run DMC, vient faire son t-shirt et puis finalement il vient avec 50 personnes et tout le monde commande des t-shirts et après il se retrouve dans tous les clips de la Terre au même moment, tu vois. Donc il y a énormément de petites anecdotes comme ça. Ils expliquent aussi, et puis il y a beaucoup de rappeurs qui n'étaient pas connus
à l'époque.
Il y a Ivy, mais
j'ai vu Méthode aussi quelque part.
Il y a Méthode, ils sont tous passés, mais il y a surtout des mecs qui sont devenus énormes et qui le sont encore aujourd'hui, comme Jay-Z.
Ah, tu le vois là?
Oui.
C'est rock ça, Pete Rock.
Il y a Pete Rock, il y a MC Search qui les a jamais, qui les a jamais tombés, ça, laissé tomber, ça c'est Jungle Brothers. Et on voit LL Cool J, il y a Kid Capri, Rakim.
Et l'autre livre, celui-ci, on voit Chris Rock.
Alors, No Half Stepping. C'est encore lié, c'est l'histoire d'un club mythique qui est sur, on appelle ça Golden Era of Hip Hop, l'âge d'or du hip hop. En 86, c'était le seul club de hip hop à New York et tous les rappeurs ou les, ceux qui voulaient devenir rappeurs traînaient là.
D'accord.
Donc c'est une époque où il n'y avait pas encore vraiment de carré VIP, etc. Les mecs, les Public Enemy, les Run DMC étaient là dans la foule avec le Kidam, beaucoup de voyous, beaucoup de bandits, dont notamment un célèbre qui s'appelait le vrai 50 Cent, pas le rappeur, parce que 50 Cent
a pris
son nom à un
gangster
qui sévissait là-bas. Et ils expliquent une anecdote comme une autre, c'est il y avait deux trois chansons, dont une chanson des Status Tonic. Dès qu'ils disaient Go Brooklyn, toutes les KRS Brooklyn volaient. Donc les habitués du club se planquaient contre les murs, tous les autres étaient sur la piste en train de danser, ils savaient rien, ils se faisaient arracher les chaînes en or, etc. Et notamment Jam Master Jay, encore lui, qui avait, je sais pas si vous vous souvenez de Run DMC, ils avaient des vraies chaînes torsadées.
Avec leur Adidas,
avec leur Adidas, ils avaient des grosses chaînes en or, mais énormes. Il y a une scène où, qui se passe où justement la chanson passe, 50 Cent saute sur Jam Master Jay, essaie de lui arracher sa chaîne. Tellement lourd qu'ils se mettent à 50 pour la prendre et n'ont jamais réussi à le faire. Il y a eu une bagarre générale, il y a eu des coups de feu tirés. Ça a été vraiment le chaos total.
Okay.
Et suite à ça, le directeur artistique du club et pas mal d'autres rappeurs ont lancé le mouvement afrocentriste. Ils ont décidé d'interdire les chaînes, de passer au médaillon, au fameux médaillon qu'on voyait beaucoup dans les années 80 avec la carte de l'Afrique.
Ouais, le gros truc imposant.
Voilà, le gros truc imposant. En fait, c'est venu de cette bagarre.
D'accord.
À ce moment-là. Okay. Et du vrai 50 Cent, qui était un super pote de Mike Tyson d'ailleurs.
D'accord.
Donc, il traînait tout le temps avec Mike Tyson. Tout le monde était. On entend beaucoup parler de Bobby Brown.
Ouais.
Aujourd'hui, les gens le connaissent pas à cause de Whitney Houston.
Exactement.
Mais en fait, Bobby Brown, c'était une superstar de New Edition. Après, il a une carrière solo extraordinaire.
Mmh. Et comme d'ailleurs, c'était une carrière. Dans le deuxième Ghostbuster.
Ouais. Ouais, exactement. C'est la chanson.
Il ouvre la porte.
Ouais. Il ouvre la porte. Il y a Donald Trump aussi, mais il fait la chanson du deuxième Ghostbuster.
Exact.
Et il traînait tout le temps là-bas. Il se battait. Enfin,
ce livre traite de ça, quoi. De tous les gens qui venaient là-bas.
Et toutes les anecdotes. Mmh. Et surtout, en fait, c'est des témoignages. Qu'ils ont interviewé tous ces mecs-là.
Ouais.
Donc il y a Flavor Flav qui donne ces trucs, il y a MC Search qui parle de ça, il y a Hitter Hunter qui parle, il y a Mike Tyson, chacun raconte des moments, le plus beau concert, les plus beaux ceci, les plus beaux cela. Et c'était la scène obligée, c'est-à-dire quand on voulait devenir rappeur,
il fallait aller là-bas,
passer sur la scène. Il raconte comment MC Hammer est arrivé, il a fait un bide, il est revenu l'année d'après, il a tout défoncé.
C'est vrai. Il
y a plein de choses comme ça.
Et dedans, comment c'est des photos, c'est des
histoires. Il y a les deux.
D'accord.
Il y a beaucoup
toujours
de photos.
Des photos.
Bah, Russell Simon.
C'est ça. Voilà.
Tu vois, il y a beaucoup de saletés. Bobby Brown. Voilà.
Attends, c'est sa femme déjà de maintenant là?
Non, ça c'est Salt and Pepper.
Ah d'accord, ok. Ouh, ils n'avaient pas le même style qu'aujourd'hui.
Ah ouais,
hein.
C'était au tout début. Hein. C'était au tout début. C'était avant leur tube. Donc là, on voit des gens bruts, tu vois. LL. Comment est-ce qu'il s'appelle?
Ça me dit quelque chose lui.
Ouais, c'est Run DMC.
Run DMC.
Melly Mel, parce qu'il y avait aussi l'ancienne garde. C'est vraiment ce passage de flambeau.
Et l'autre, le dernier que tu as, est un peu plus mode quand même.
Voilà, alors lui, Street Style, c'est un livre anglais, donc on change, et c'est un livre qui traite des sous-cultures.
D'accord.
Donc il fait le tour, il traite de toutes les sous-cultures à partir de la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Moi j'ai une théorie qui ne tient qu'à moi forcément, mais je vais bientôt l'écrire, qui dit que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, le schéma était tel que il y avait un système de classe. Les gens appartenaient, soit tu étais ouvrier, soit tu étais de la bourgeoisie, soit tu étais de l'aristocratie, et donc on grandissait dedans, et c'était un chemin obligé. En fait, quand on était enfant ou adolescent, on était juste un mini-adulte.
D'accord.
On était habillé quasiment comme les adultes, comme la classe qu'on allait rejoindre plus tard. On avait ce comportement et on écoutait cette musique, on était parqué dans des cases. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, en fait, les jeunes étaient plus ou moins, déjà ils étaient très nombreux, ils étaient plus ou moins laissés à eux-mêmes, et le système de classe a disparu. C'est-à-dire qu'on pouvait rêver, déjà l'école était beaucoup plus accessible, donc plus de bac, ça veut dire qu'on fait des études supérieures, et études supérieures, ça veut dire qu'on dépasse le statut des parents, parce que beaucoup étaient les fermiers, l'agriculture, c'est ouvriers, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on devient? Bah, on commence à écouter du rock, comme les Américains. Donc, ça, c'était la première sous-culture. Ouais. Après, on devient hippie, deuxième sous-culture qui existe, ou bien on devient reggae, ou bien on devient skin, etc. Cette jeunesse était obligée de se créer ses propres classes. Donc, pour moi, les sous-cultures, c'est les classes du 20e siècle.
Ouais.
Voilà. Et toujours collé à un courant musical. Ça vient toujours d'un courant musical. On veut être comme sa star, on veut s'habiller comme Elvis, on veut s'habiller comme Bob Marley, on veut s'habiller.
La personne qu'on voit nous représente.
Exactement.
Manière,
ouais. Et on veut que les gens comprennent qu'on fait partie de ce groupe-là.
Exactement. Ouais.
Donc, et ça, c'est un manuel, un livre qui traite des sous-cultures et qui explique plus ou moins. C'est toujours, il y a quand même un axe très anglais, mais après ils ont inventé pas mal de sous-cultures aussi, et ils décryptent toutes les tenues.
D'accord, ok.
Quelle chaussure on écoutait, quel disque il écoutait à ce moment-là, quelle marque de chemise. Par exemple, pour en revenir aux Shirtkings, etc., ça c'est quelque chose que j'avais remarqué, et surtout qu'on entend beaucoup, quand on fait très attention aux lyrics des années 80 sur le hip-hop, ils portaient pas de Levi's, ces mecs.
Non.
Mais c'est pas qu'ils portaient pas de Levi's, ils étaient contre Levi's, ils mettaient que des jeans Lee. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et dans tout leur.
Un truc de racisme aussi, classe ouvrière, je sais pas quoi.
Ouais, mais ils le formulent pas comme ça. Il dit juste, jamais vous me verrez porter un Levi's de ma vie.
Je pourrais demander à ces.
Les premiers à l'avoir porté, c'est Run DMC. Juste avant, c'est tous du Lee. Et quand on regarde toutes les photos d'archives, ils sont tous en Lee. Louis, ce genre de marque.
D'accord.
Donc on sait pas. Voilà. Et ça, c'est un livre qui permet de.
Ça va aux sources, comment c'est l'intérieur? Il y a des photos aussi pareilles.
Il y a quelques photos. C'est assez archivé. Mais ouais, il y a beaucoup de look et beaucoup de textes.
Beaucoup de modes caricaturés aussi, hein, puisque forcément il faut que
forcément.
On représente bien de l'état d'esprit.
Exactement, et ils vont vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a des groupes où à l'heure actuelle on les mélangerait tous, eux comme c'est des Anglais, il y a vraiment des variantes. Il avait telle couleur des lacets, il faisait pas partie de tel groupe, il faisait partie de tel groupe. C'était pas un mode, c'était un hard mode.
Pour aller un peu très loin, c'est un peu comme les Bloods, tu portais pas les Bloods dans un autre quartier.
Exactement,
etc.
Tu mets pas du rouge quand t'es dans un quartier bleu.
Tu peux pas mourir.
Après, mais c'est exactement ça.
Est-ce qu'il y a aussi, parce qu'à un moment donné, je te suivais bien entendu, est-ce qu'il y a un peu mode afro quand même là-dedans? Parce que moi, t'as beaucoup.
Ouais, il y a beaucoup. Quand tu regardes bien, par exemple, j'aime bien donner cet exemple-là. Le mouvement skinhead, c'est un mouvement afro-caribéen à la base. Ça vient des Tutons qui sont les ska. C'est des Jamaïcains, des immigrants jamaïcains qui arrivent en Angleterre. Donc c'est une mode noire à la base. Et tous les skinheads écoutent du reggae. Ils sont mélangés. Il y a de l'indien, il y a du noir et il y a du blanc. Et puis finalement, après, il y a eu des dérives extrême droite. Mais le mouvement en lui-même, c'est un mouvement jamaïcain. Donc oui, il y a ce courant-là. Ou même quand ils parlent du rock, ils sont obligés de revenir aux origines, qui est un mouvement noir du sud des États-Unis.
Il y a beaucoup de mélange, quoi.
Il y a beaucoup de mélange. Et c'est assez marrant parce que c'est vraiment une époque où, pour résumer, en fait, rien qu'à la tenue d'un mec, tu le voyais de l'autre côté de la rue, tu savais si tu devais traverser, si tu devais changer de trottoir, si tu devais faire demi-tour, si tu devais partir en courant, rien qu'en en regardant quelle marque de chemise il portait, quelles chaussures, on savait.
Est-ce que c'est encore possible ça maintenant?
Non. Aujourd'hui, déjà, on a plus ou moins perdu. On a perdu cette culture, cette connaissance. Les groupes, ils se sont plus ou moins fondus. C'est quelque chose
qui s'est arrêté. Un gros métissage.
Milieu des années 90. Et maintenant, quand les jeunes reprennent ça, c'est sans connaître les codes.
C'est
juste pour faire comme avant. Donc,
ça se voit, de toute façon, quand ils le portent, tu sens qu'ils portent un déguisement.
Exactement. Ils sont déguisés. Ils portent une Doc Martin. En ce moment, ils portent tous des filas, des trucs comme ça.
Des champions.
Ou bien des jeans. Les filles portent des jeans taille haute, etc. Ils veulent être comme dans les années 90 sans s'intéresser à la vraie histoire.
Exactement. Donc, ok, et tu penses que qui pourrait être intéressé par ce type de livre en dehors de la mode?
Celui-là, c'est strictement mode. Donc, mode. Mm-hmm. Après, tous les gens qui sont intéressés par la street culture, entre guillemets.
Ceux qui portent des vêtements, ils savent pas d'où ça vient, justement.
Voilà. et qui veulent savoir.
Ouais, ouais.
Après cela, si vous êtes fan de hip-hop,
ouais,
ou si vous êtes fan de, on va dire, de légendes urbaines, parce que là, on a toutes les anecdotes des années 80, et vraiment de la naissance du hip-hop. Parce que, bon, la naissance, c'est des années 70, mais années 80, c'est vraiment l'âge d'or. C'est tous les groupes mythiques.
Ouais.
On va parler des Beastie Boys, enfin, c'est Def Jam à fond, et après tous les autres, Fresh Prince of Bel-Air, enfin, les gens connaissent Will Smith.
Ouais.
Mais en fait, c'était Fresh Prince, c'était DJ Jay-Z Jeff et Fresh Prince.
Exactement.
Voilà, ce genre de choses, toutes ces personnes qui maintenant ont 40, 50 ans, qui vivent à Hollywood, il était dans des séries Ice-T.
C'est clair.
On le voit à la télé dans New York Police District.
Exactement.
Ou un truc comme ça, mais c'était un des rappeurs les plus durs de tous les temps. Voilà. Donc, si vous voulez revenir aux origines de toutes ces personnes-là, c'est beaucoup
pour les intérêts. Que ces personnes-là, il y avait le hip-hop, c'est pas autant que maintenant où. Ça allait jusqu'aux séries télé, jusqu'à la mode, donc la musique, ça touchait vraiment tout un large panel et ils se connaissaient tous, il y avait toujours un parcours croisé.
C'était vraiment la genèse de tout un mouvement. Et ce qui est marrant, c'est maintenant en lisant ces bouquins-là, parce qu'il y avait plein de bifs déjà.
Ouais.
Et le Cool G n'est même pas Cool Moody, ils faisaient des battles de dingue, ils ont fait Roxanne Chanté, Real Roxanne, UTFO, etc. On comprend pas pourquoi. Mais quand on lit ce livre-là, on voit qu'ils étaient tous dans la même boîte.
Clair.
Tous les soirs, et que finalement leurs embrouilles, elles venaient, c'est une histoire de meuf ou la renversée mon jus d'orange, etc.
C'est
et c'est maintenant qu'on comprend les vrais bifs.
Est-ce que tu as vu cette série sur Netflix dont on carry Get Down, qui était arrêté parce qu'elle coûte trop cher.
Ouais.
Est-ce que tu trouves que c'était une bonne représentation de...
La première partie était de bonne représentation, et notamment au niveau de l'archivage, au niveau des tenues, au niveau des pas. Après, il y avait des incohérences dans le scénario, d'après moi, parce que le mec, il faisait plus ou moins penser à Jay-Z. Il le montrait, il montrait des fast-forward où il était en concert, etc.
C'était représenté par Nas, mais tu trouves que c'était Jay-Z, toi.
Ouais. Et un mec, en fait, qui est adolescent dans les années 70, à la naissance du hip-hop, ne peut pas encore être là, donner des concerts, en faire des stades, avoir 30 ans. Ça n'a aucun sens. Et après, la deuxième partie, c'était un soap opéra, donc ça m'intéressait beaucoup.
Moi,
c'était une histoire d'amour, etc.
J'ai arrêté dès le deuxième épisode. Je sais pas, moi, je voyais les décors qui étaient faux. Quoi. Je voyais tout ce qui était faux.
Ouais.
C'était trop de caricatures. Je me suis dit,
C'était poussé. Après, je trouvais que, en tout cas, la première partie, ils avaient fait un bon travail d'archivage. Mais je pense que Grandmaster Flash était consultant dessus.
C'est ça, exactement.
Il a mis son nez dedans. Et oui, il y avait toujours la. Moi qui m'intéresse à la mode ou ce genre de choses. La paire de baskets était cohérente, là, ceci et cela.
Ouais.
Et je pense qu'ils ont aussi fait des petites private jokes, parce que je sais qu'ils ont placé des disques qui n'avaient rien à voir. N'avaient rien à voir là, etc.
Ouais.
Ils sont bien amusés, ils sont délirés, et puis ils ont pris leur argent. Et,
c'est ça.
Ouais, tout le monde a regardé, on a kiffé.
Ouais. Ils prévoient apparemment de changer un petit peu en film ou je sais pas quoi, mais bon, je ne regarderai pas.
De toute façon, la deuxième partie était relou, donc.
C'est ça.
Je t'aime, je t'aime pas,
Ah, ça devenait du humbug.
Bah oui.
Et le sport, on en parle là-dedans ou pas? Parce que le sport, c'était aussi une grande inspiration.
Ouais, c'était une grande inspiration, mais on n'en parle pas. À part dans celui-là, dans No Half Stepping, où tu apprends qu'il y avait tout un petit groupe de rappeurs qui se retrouvaient tous les week-ends pour aller jouer au basket, notamment les Belle Beef de Vaux, les mecs de Third Base, y avait les Grand Pouba, donc les Brand New Beans, et voilà, ils se retrouvaient dans un parc à New York, ils allaient jouer tout le monde. Donc ils se donnaient rendez-vous au truc.
Parce qu'il y avait beaucoup de marques de sport qui étaient empruntées
énormément. Et du Puma, du Proquette, du Converse à Poison. Les débuts de la Air Force One aussi.
Ouais.
Enfin voilà.
Reebok était même plus que Nike à l'époque.
Reebok était la première marque de sport à l'époque.
Bien entendu.
Ah, ils avaient fait ça. Et surtout sur la femme. Sur les mecs, ça cartonnait, mais sur la femme, avec la freestyle, c'était juste dingue.
À fond. Et il parle les cheveux d'ailleurs. Parce que là, les coupes, c'était quelque chose, c'était une signature. Hein.
Les coupes, c'était des signatures, c'était des gros caméos, des high top de dingue. Bah, tu vois, de toute façon, on a Kid and Play, on a Théo Extebel. Oui, mais Christophe, il s'est pas perdu. Tu vois, il a un curly, ce qu'on appelle curly en France, du soul glow.
Ouais.
Et il y en a plein dedans. Si tu regardes les mecs, il y a
huilé, brillant.
Voilà, huilé, bien brillant. La Paradise.
Il a fait un documentaire sur le défrisage, mais bon.
Ouais, mais il a oublié. Le mec,
il s'est
oublié, c'est tout.
Il a pas mis ça dans son doc.
Il a pas mis une photo, mais regarde, là, il y a des belles permanentes quand
c'est
même.
C'est clair.
Et puis les filles aussi.
NWA aussi.
Ouais, NWA. Mmh. Et bah, tu vois le genre de chaîne qu'ils portaient à l'époque. Enfin, c'est juste dingue, quoi.
Ouais.
Et après, on voit aussi l'évolution. C'est-à-dire que les mecs, à un moment, ils sont tous.
Ouh,
tu vois, ils commencent par Jerry Curl, après ça monte, et après ça descend, ils commencent à être tressés et rasés.
Ah. Tu vois l'évolution, c'est bien suivi en tout cas. Où tu les as achetés ces livres ?
Amazon.
Oh.
Amazon.
En les cherchant ou c'est tombé dessus ?
En cherchant. En cherchant. Après. Comme Internet est si bien fait, à force d'acheter des trucs là-bas, ils commencent à me proposer des choses qui pourraient m'intéresser. Mais ouais, Amazon, en cherchant, en regardant, bien. Quand je fais, parce que j'achète aussi des bouquins où il n'y a pas du tout d'images, où ce sont juste des recherches sociologiques, etc. Il y a des références dedans. Mm-hmm. Après, tu cherches la référence, tu tombes sur autre chose, etc.
Forcément.
C'est la vie de bibliothèque.
Tout est en anglais.
Tout est en anglais, ceux-là sont en anglais.
Alors, Short Kings, No Half Stepping and Street Style sont des livres assez historiques. Est-ce que tu as d'autres lectures favorites ? Tu parlais justement de livres, il n'y a pas de
foot. Le prochain livre que je vais lire, c'est Sardine sans tête. Il m'a été conseillé par une librairie qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Littérature.
D'accord.
Donc c'est un bouquin que je vais acheter en librairie.
Ah,
il faut aussi supporter.
C'est clair.
Le dealer local. Et c'est écrit par Guy Alexandre Sunda, donc écrivain afro-européen. Déjà Littérature, le concept de cette nouvelle librairie qui se trouve à Boulogne, c'est une librairie sur la culture afro.
D'accord.
Donc on a de la littérature afro-européenne. Donc des gens d'origine africaine mais qui sont nés, grandis et qui sont européens. Littérature afro-américaine et aussi de la littérature africaine.
Ouais.
Donc tu trouves des auteurs de tous les pays,
tous les styles.
Tous les styles, exactement. Donc c'est pas rangé, c'est pas une petite case ou un bac à la FNAC.
C'est ça.
T'as des romans policiers, t'as de la littérature jeunesse, t'as des traités, des essais.
T'as l'adresse ?
Voilà. l'adresse, elle est au Colisée au concept.
D'accord,
voilà.
Ok.
Et du coup, elle m'a conseillé un livre qui s'appelle Sardine sans tête d'un écrivain d'origine congolaise qui ne veut pas qu'on dise ça, il dit juste que c'est un écrivain en bas, puis qu'il est français. Et c'est l'histoire d'un homme. En gros, la police trouve un homme jonché sur une statue en plein milieu de Paris qui commence à délirer, à faire le fou, etc. Il arrête et quand il commence à interroger, il se rend compte que c'est un ancien soldat, chef de guerre, qui a fait la guerre civile au Congo et que ça l'a rendu dingue.
Wow.
Et donc il commence à raconter des histoires, mais il en oublie certaines. Et, alors, en fait, on comprend comment la mémoire se parcelle.
D'accord.
Des choses qu'on occulte, des choses dont on est fier, ce genre de choses, et comment ça traumatise et finalement ça marque à vie et qu'on finit par en perdre la tête.
Ah, voilà.
Et super belle écriture, j'ai lu quelques passages. On va dire qu'il a une écriture musicale.
Waouh, impressionnant. Et t'as des préférences de lecture au cours de l'année, ou parce que là, est-ce que c'est une lecture plus estivale, plus légère, plus simple à lire, ou t'as
j'ai pas de préférence, c'est plus des coups de cœur ou on m'offre des livres ou je cherche comme ça, mais j'ai pas de préférence en général.
Tes romans aussi, tu lis?
Ouais, je lis des romans, des nouvelles aussi de temps en temps, un peu de tout. Un peu de fiction.
Sci-fi, thriller, policier.
Bah, j'ai une copine qui a écrit un livre, donc je l'ai lu aussi, c'est si les Procom y étaient, sur Amazon.
D'accord.
Là, c'est auto-édité. J'ai beaucoup aimé, c'est un genre de thriller, une enquête policière qui se déroule en Irlande.
D'accord.
Voilà.
Ça va, tu lis pas mal quand même, t'as une bonne bibliothèque alors.
Ouais. Ça, oui.
On est voisins.
Et il y a beaucoup de livres sur les sneakers, forcément.
Ah, forcément. Faudrait que je vienne chez toi, en plus on est voisins.
Fais-toi plaisir.
C'est clair. Tout au long de l'année, tu lis régulièrement ou t'as le plus des moments où tu préfères
Non, je lis régulièrement. Et quand tu regardes mon magazine d'ailleurs, le Closet,
t'as une partie.
Il y a une partie au début. Non, c'est pas conseil de livre, c'est je mets tous les produits que j'utilisais pendant la création du magazine.
Magazine simple.
Et donc. Tu vois, tu retrouves la sauvepote que je portais, les chaussures que je portais, les bouquins que j'ai, les albums que j'écoute. Bah, là, c'est Booyah Tribe, Outkast, Meat Love, tu vois.
Oui, c'est ton smartphone, là.
Voilà, mon smartphone, le Honor.
Tu vois, t'es reconnu. Mais oui, puis là, le Theta.
J'ai fait pas mal de
utilisé, c'est vrai.
Donc, je mens pas. Mon protège-dents, parce que quand je boxe, j'avais ce protège-dents, je courais avec cette chaussure. Enfin, tous les produits que j'utilise. Et donc, on retrouve un peu ma bibliothèque aussi.
D'accord.
Bibliothèque... littéraire et bibliothèque musicale.
Tu mets beaucoup de livres régulièrement, souvent?
Ouais, je mets au moins les 3-4 derniers que j'ai utilisés. Après, j'en lis un peu plus, mais...
Quel est ton rythme de lecture en général, par exemple, ceux-là? Tu les as lus en combien de temps?
Je sais pas, ça met du temps, c'est... Ça dépend de la longueur des textes, en fait. Longueur des textes, le nombre de rendez-vous, etc.
Ouais, ouais.
Parce que quand je fais que des trajets maison-bureau, bah finalement, j'ai 3 stations, donc
ça
prend des mois et des mois pour finir un truc. Mais dès que j'ai l'occasion de prendre l'avion ou bien d'avoir un rendez-vous comme au Luxembourg aujourd'hui, bah, je prends un bouquin et puis ça me permet de me taper toutes les stations. Donc,
donc pas de rythme vraiment. De lecture particulier.
J'ai pas de rythme.
D'accord.
Et j'écoutais... l'émission que tu as enregistrée précédemment, et j'ai trouvé pas bête ce qu'il disait, lire 2 livres en même temps, j'ai jamais fait, mais effectivement je regarde plusieurs séries en même temps, donc
mais
peut-être
ouais,
que je devrais
Cynde, hein, qui donne des conseils, moi je fais ça aussi, je lis selon les moments de la journée, parce que forcément t'as pas ton esprit n'est pas adapté pour lire des livres, je dirais pas des thèses avant de dormir, tu vois.
Donc je vais m'y mettre.
T'as des lieux de lecture, là t'as parlé du métro, est-ce que t'as des moments, enfin des lieux où tu préfères lire?
C'est métro.
Métro.
Métro, métro, métro. Chez moi non, parce que les enfants c'est
même pas la peine.
Métro, avion, aéroport. Ouais, c'est vraiment des lieux publics en fait.
Ah les aéroports, j'ai pas pensé à ça, mais je préfère me traîner dans les aéroports. J'aime bien regarder les gens dans les aéroports. Tu vois une fille dans un coin qui regarde.
C'est toi.
C'est... Et t'as des moments de lecture le soir, la journée? Tu m'as parlé du métro, mais du...
Non, n'importe quel moment.
D'accord.
N'importe quel moment, ouais.
Merci Maximilien Entari, Calafour. Tous les mots en anglais.
Yes.
Merci d'avoir partagé tes lectures estivales. Bonne prochaine lecture. Sardine sans tête.
Sardine sans tête.
Merci chers auditeurs de nous écouter et à bientôt pour un prochain bout de lecture sur la même radio.
Ta, 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 ta.
MM Radio.